Les boutons de bretelle.
Bretelle avait vu passer un trésor. Vous vous rappelez cette voiture élégante qui avait dépassé les roulottes en grand silence sur la neige? Que faisait-elle dans ce quartier où le golem lui-même n'aurait pas osé s'aventurer? En l'apercevant, Bretelle se désintéressa d'Émile et des souris. Son œil se fixa sur le manteau de fourrure qui luisait derrière la vitre et ne le quitta plus jusqu'à ce que la voiture eût tourné au coin.
Ce qu'elle avait vu, des boutons. Deux rangs de boutons de cuivre alignés sur le manteau en un resplendissant garde-à-vous. Et, merveille des merveilles, leurs jumeaux cousus au revers des manches. Bretelle leur embraya illico le pas. Ni Émile, ni Minuit 5 n'auraient pu la retenir. Mais ni Émile, ni Minuit 5 ne la virent partir. Seule Froufrou, la souris, la regarda avec envie.
La ruelle se mit à rétrécir au point que seul un humain pas trop large pouvait y marcher. Donc le fiacre s'arrêterait bientôt et le cœur de Bretelle s'emplit d'espoirs extravagants. Elle prit un raccourci par les rues pointues et serrées de la vieille ville, tout juste éclairée par la neige. Ses guenilles battaient au vent par-dessus les pavés glacés.
Elle déboucha sur une palissade où des cages à poules en fer s'appuyaient de guingois comme un ivrogne à une épaule charitable. Au-delà, on entendait les chevaux du fiacre. Puis il y eut un silence. Un silence aussi net et froid qu'une tranche de viande. Sous l'œil rouge des poules, Bretelle rampa de l'autre côté de la palissade.
La voiture était à l'arrêt, sa lanterne oscillant au vent. Un monsieur en sortit. Son manteau de fourrure se profila sur la neige, son monocle jeta un éclair. Sur un signe de lui, le fiacre repartit dans son halo tremblotant. En ce soir d'hiver de la bonne ville de Prague, le monsieur au monocle se croyait seul. Bretelle réfléchit.
Soit elle attendait qu'il perde un bouton. Mettons que, plop, un des soldats au garde-à-vous sauterait sur le pavé pour aller vivre sa vie dans le vaste monde, c'est-à-dire dans son ourlet de jupon. Mais c'était là un miracle aussi probable qu'avoir un pâté chaud dans l'estomac le jour de Noël. Soit elle aidait le miracle en allant tirer un des boutons, au cas où il ne tiendrait plus qu'un fil. C'est alors qu'elle vit, comme je vous vois, le miracle en question. Sur la martingale du manteau, un bouton qui tournoyait sur son fil comme un pendu à sa corde et qui ne demandait qu'une chose, qu'on le tire de là.
Mais au même moment, Bretelle aperçut autre chose qui la pétrifia. À l'autre bout de la ruelle, il y avait deux ombres. Deux ombres qui, comme elle, suivaient le monsieur au monocle. Malgré l'obscurité, elle reconnut Schultz et Milčić, deux voleurs sans foi ni loi, assassins à l'occasion, connus de tout Prague. Ils avaient jailli dans la rue noire comme deux loups d'une forêt. Leur intention était de détrousser le monsieur, de le tuer peut-être, et cette idée épouvanta Bretelle.
Le monsieur, lui, n'avait remarqué personne et, se croyant toujours seul, il se lança dans une voltige stupéfiante pour un gentilhomme de son rang. Il escalada, tel un vulgaire montant l'air, un muret de pierre au toit de tuiles. Arrivé en haut, il s'agenouilla devant une petite niche qui abritait la statue de Saint Procope, et il parut dès lors très très affairé. Il fallait le prévenir, mais discrètement. Bretelle se faufila jusqu'au muret et, malgré ses doigts gourds, elle l'escalada à son tour, mais du côté opposé pour rester cachée des voleurs. Elle atteignit bientôt les tuiles. Pourtant, le monsieur ne la vit pas. Il était bien trop occupé. En outre, la neige avalait tous les bruits.
Et Bretelle avala sa langue. Car dans la main du monsieur, Il y eut soudain l'apparition la plus magnifique que Bretel eût jamais vue ou que son cœur eût rêvé. Diamant, or, rubis avaient jailli de la nuit aussi fulgurant que le carrosse de la citrouille. Un collier dont la lumière frappa les yeux de Bretel tel un soleil. Et même si elle ne l'avait jamais vu, elle sut tout de suite de quoi il s'agissait. Le collier de la princesse Daniela. L'homme souleva à la façon d'un couvercle une des tuiles qui chapeautait la niche de Saint-Procope. Il y coula le somptueux bijou qui disparut et il remit la tuile en place. La nuit redevint la nuit.
En bas, les deux ombres approchaient.
« Attention !» cria Bretel.
Le monsieur se dressa d'un bond. Par-dessus les tuiles, il la dévisagea. Son monocle fut traversé d'un éclat blanc, un éclat de stupeur et de peur, où l'on distinguait aussi de la colère et du dégoût. Si cet éclat avait été maléfique, Bretel serait morte foudroyée, là, sur le petit muret enneigé.
Un point de cuir bondit de l'obscurité et s'écrasa sur son nez.
Bretel couina de surprise et de douleur. Elle dérapa, se raccrocha la manche du monsieur qui lui asséna un second coup de poing. Elle tourbillonna par-dessus le muret et tomba dans la rue, évanouie sur la neige. En deux bonds, l'homme était redescendu et s'apprêtait à fuir. Mais Schultz et Miltitsch lui barrèrent la route. « Je n'ai pas d'argent !» leur souffla l'homme. « Laisse-nous décider de ça !» ricana Schultz. En un tournement, ils l'assommèrent et lui vidèrent les poches. L'homme avait dit vrai. Il ne possédait qu'un kreutzer, le prix d'une course en fiacre. « Prends la montre !» ordonna Miltitsch. Son complice se pencha et grogna un juron.
« Ah, du faux or !»
Comment ça ?«
Regarde, du métal recouvert d'une couche d'or. Ils font ça quand ils veulent cacher qu'ils sont ruinés. « Je vais le tuer !»
« Bah, laisse !» il a eu son compte. Ils empochèrent tout de même la montre.
« Qu'est-ce qu'il fabriquait là-haut ? » s'étonna Schultz. « Et la gamine, d'où qu'elle sortait ?»
Il grimpa sur le toit où la neige était roulée sans dessus-dessous, comme du vieux linge. Il scruta les tuiles, la statue, mais ne vit rien et il redescendit. De l'autre côté du muret, Miltitsch examinait Bretel, toujours étourdi dans la neige. Une de ces mômes qui dorment sur les berges de Campa. Elle peut nous reconnaître.
J'aime pas tuer les gosses.
Je te savais pas sensible.
C'est pas ça. Ça a l'air tendre, mais y a rien de plus dur. Leur peau, c'est du caoutchouc. Le couteau dérape.
Ils retournèrent à l'homme étendu. Faut le cacher. Moins vite on le trouvera, plus loin on sera.
Ils le tirèrent par les pieds jusqu'à la palissade où les poules avaient l'air de se demander quand elles pourraient enfin dormir en paix. Puis les deux malfaiteurs reculèrent, mains dans les poches.
« La montre rapportera bien 5 ou 6 florins. »«
En or, elle en aurait rapporté 60. »
Schultz grogna de rage et de dépit. Il revint sur ses pas pour décocher des coups de pied et des gifles à l'homme allongé. Soulagé, il s'en retourna vers son complice. Il ouvrit sa main où un objet brillait. Son monocle. 1/2 florin.
Une bourrasque plus violente que les autres fouetta Bretel qui ouvrit les yeux au moment où les deux voleurs quittaient la rue. Elle vit une enseigne qui se balançait avec des cliquetis de vieilles mâchoires. La demi-lune luisante comme une part de tarte. Et juste dessous, Saint-Procope dans sa niche sous les tuiles. Elle se releva, vérifia autour d'elle. La nuit blanche et noire était déserte. Elle se tâta enfin, constata qu'elle était entière. Elle se donna des tapes pour secouer la neige et, prudemment, remonta sur les tuiles. Celle qui servait de cachette au collier se situait à gauche de la niche. Bretel la fit coulisser. Ce fut un feu, d'or, de perles, de rubis. Le cœur de Bretel se recroquevilla en une sorte de long silence. Elle plongea les doigts et souleva le bijou comme une grappe. Elle dénoua en hâte son ourlet et vit seulement qu'un bouton de cuir était dans sa main
depuis qu'elle s'était raccrochée à la manche du monsieur au monocle. Vite, elle glissa collier et bouton dans l'ourlet où ils rejoignirent tous ses autres trésors ainsi qu'une famille de puces. Elle y fit un nœud et encore un nœud, sauta du muret et détala comme une chèvre.
Bretelle allait recevoir la raclée de sa vie. Minuit 5 ruminait, silencieux, aux côtés d'Émile, lequel contemplait d'un air pensif Froufrou qui prenait l'air sur son bras. « Comment parle une souris ?» s'interrogeait Émile. Minuit 5, lui, bouillait de colère. Il avait dû partir à la recherche de sa sœur. À cause de cet idiote, il n'avait pas eu le temps d'exécuter le premier acte de sa somptueuse idée. Que Bretelle aille au diable ! Il se mettait en quatre pour avoir des idées de génie qui lui feraient un jour une existence de baronne, et voilà qu'elle disparaissait sans prévenir. Ah oui, une jolie raclée ! La future baronne déboula à ce moment précis, échevelée, les guenilles pleines de bestiaux de toutes espèces, des griffures aux joues, parfaitement ignorante des idées de génie qu'elle suscitait. « Où c'est que t'étais ?» grinça son frère. « Où étais-tu ?» corrigea machinalement Émile, sans quitter Froufrou des yeux. Avant que Bretelle pût parler, Minuit 5 lui allongea une taloche gratinée. Elle se releva en braillant et en zigzagant. Son ourlet pesait lourd.
Elle expédia en retour une claque grandiose à son frère, dont l'oreille vira vermillon à la vitesse d'un cheval. Ensuite de quoi, Bretelle se dépêcha de prendre la poudre d'escampette. Quand elle fut loin, elle secoua une nouvelle fois neige et bestiaux et tira la langue aux gargouilles de Notre-Dame de la Chaîne. Ah, son frère l'avait frappée. Eh bien, pour la peine, elle ne lui dirait rien du collier. Rien, mais alors, rien.